France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Quel est le régime au monde qui pourrait confiner chez eux quelques 56 millions d'individus, à 10 millions près, l'équivalent de la population française? Quel est le système qui pourrait, depuis lundi dernier, décréter le renforcement de la propagande après avoir retardé la mise en place des mesures sanitaires? Quelle est la société ainsi menacée par un virus et la psychose qu'il engendre qui se plierait à une telle discipline? Quelle est l'économie ainsi frappée et déjà ralentie qui pèse autant sur les échanges et les marchés financiers de la planète? Le coronavirus donne la mesure de l'extraordinaire puissance de la Chine et de ses fragilités, bien sûr, de l'intransigeance d'un pouvoir totalitaire ébranlé dont la raison d'être est le contrôle exercé sur son peuple. Un contrôle incarné par un seul homme, Xi Jinping, qui par tous les moyens veut faire de la deuxième économie la première puissance du monde devant les États-Unis. L'épidémie qui se répand semble endiguée dans les pays au système de santé robuste, dans les pays riches autrement dit, et gagne du terrain dans les zones émergentes et voisines de la Chine. La pénurie de masques et de gants affole les populations. L'OMS décrète l'urgence mondiale mais ménage Pékin qui dénonce l'hystérie anti-chinoise des médias occidentaux. Quel bouleversement le coronavirus provoque-t-il dans les profondeurs de la société et du système chinois? Comment Xi Jinping va-t-il maintenir l'unité autour du parti? Jusqu'à quel point l'usine du monde qui assure 20% de sa production est-elle menacée de fermeture? Quel impact, enfin, sur les rapports de force géoéconomiques et géopolitiques de la planète? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous. Karine Milsan, bonjour. Vous êtes économiste, chercheuse au CNRS, professeure associée à Paris Sciences Économiques. Bonjour. Avec nous aussi Sébastien Vegue, historien de la Chine contemporaine. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, Sébastien Jean. Merci d'être avec nous, directeur du Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI. Par téléphone, Frédéric Keck, bonjour, directeur du laboratoire d'anthropologie sociale au CNRS. Et tout à l'heure, par téléphone, bien sûr, Jean-Pierre Cabestan, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Université Baptiste de Hong Kong. Karine Milsan, la Chine, 1,4 milliard de personnes. Les derniers chiffres, ceux d'hier en tout cas, 636 morts, plus de 31 000 malades. Et pourtant, l'empire du milieu semble asphyxié et le régime appelle à la bataille du peuple assortie de chants héroïques, patriotiques. L'enjeu, c'est quoi? C'est de évidemment de conforter une population inquiète, et on comprend pourquoi, mais aussi de raffermir son emprise.
L'enjeu, déjà, il ne faut pas s'arrêter sur les chiffres, mais plutôt regarder l'évolution de ces chiffres. On parle quand même de la Chine, où on communique de façon sélective. Donc ce qui est intéressant, c'est plutôt de regarder la progression de ces chiffres. Maintenant, pour répondre à la question de la manière dont Xi Jinping traite le problème, on sent qu'il doit affirmer ou réaffirmer sa position, montrer que c'est effectivement lui le chef, c'est ce qu'il a fait à plusieurs reprises. En prenant le pouvoir, c'est un pays très décentralisé, les choses sont passées à Wuhan, il a montré de façon très forte que c'est lui qui commandait, que c'est lui qui reprenait les commandes. Et puis, également rassurer sa population, et donc rassurer à l'intérieur et à l'extérieur, montrer une Chine pour l'extérieur, montrer une Chine forte, une Chine unie derrière un seul homme, et montrer que cette personne, à travers un État autoritaire, est capable de contrôler sa population aux chiffres impressionnants, et de capable de geler également toute une province.
Et même plusieurs,
et de façon impressionnante, et puis à l'intérieur, de montrer qu'il n'y a pas de signe, qu'il ne faut pas y voir de signe, que Wuhan n'est pas un endroit où il faut y voir un rappel à l'histoire, à ce qui a pu se passer en 1911, avec le berceau,
le début de la révolution,
etc. Mais qu'au contraire, il va représenter cette puissance chinoise. Il faut qu'on lui fasse confiance et tous ensemble, ils seront capables de relever ce défi.
Néanmoins, plusieurs jours de retard, parce que les autorités locales, d'abord, ont tenté d'enfouir le problème. Et on a appris avant-hier le décès de ce jeune médecin, un ophtalmo de 34 ans, qui avait été le premier à donner l'alerte, qui du coup avait été convoqué par la police, qui lui avait infligé un blâme. Il avait dû se rétracter par écrit. Là, il est mort, et semble-t-il, sur les réseaux sociaux, alors là, même en Chine, avec des réseaux ultra contrôlés, la colère s'exprime.
C'est assez intéressant. Ça montre une certaine limite du contrôle. Je dis bien une certaine, parce que on sait que le régime chinois est capable de couper l'ensemble des réseaux, et donc du coup. Il y a quand même, si vous voulez, quand les gens sont totalement désespérés, même si les choses sont très contrôlées, ils arrivent à s'exprimer et à trouver des voies d'expression.
Même s'il n'y a pas d'anonymat en Chine, on peut pas se cacher derrière le loup gris, la fée à clochette.
Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, quand vous utilisez votre téléphone, même pour créer des groupes, même pour juste communiquer, comme on peut le faire avec WhatsApp, ce serait WeChat en Chine, on donne son numéro identifiant puisque ces mêmes applications en fait servent pour d'autres choses, servent pour payer, servent pour faire des cadeaux, servent pour s'inscrire dans les hôpitaux en préenregistrement.
Donc pas d'anonymat.
Donc il n'y a pas d'anonymat. Donc,
mais on a vu que sur WeChat, les critiques étaient dirigés vers les responsables locaux, comme s'il y avait eu, sinon une consigne en tout cas.
C'est pas réellement une consigne, c'est aussi une manière de percevoir le pouvoir. Xi Jinping s'est positionné comme étant l'homme anti-corruption. Par là même, il, dans un certain côté, il peut rassurer. La deuxième chose, c'est qu'il est plus facile. Si vous voulez, vous avez votre identité qui est là. Il est quand même plus sage pour vous de critiquer le régime local que de vous mettre à critiquer le régime central pour lequel vous n'avez pas d'échappatoire s'il se retourne contre vous.
Ce qui est très intéressant, c'est que semble-t-il, la semaine dernière en tout cas, une plateforme diffusait ce remarquable téléfilm documentaire sur Tchernobyl. Où, évidemment, on voit à la fois les carences et la lâcheté du régime soviétique au moment de la catastrophe nucléaire. Et beaucoup d'internautes chinois utilisaient cette comparaison pour dire, de façon masquée à la chinoise, ben vous voyez, en gros, voyez ce qui se passe quand le régime se dérobe.
Mais ça corrobore ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire cette absence ou ce contrôle très fort du pouvoir sur les réseaux sociaux fait que les gens doivent trouver des manières détournées pour s'exprimer. Quand la colère est trop forte, ils vont y aller de façon plus directe, mais quand il peut avoir des actes plus réfléchis et moins se mettre en danger, ils le font de façon beaucoup plus détournée. Et c'est également culturel que de faire passer des messages. Il y a plein d'expressions chinoises qui ont des doubles sens. Et donc les utiliser permet de faire passer plusieurs messages à la fois.
Sébastien Weg, est-ce que on peut voir dans ces circonstances dramatiques et encore une fois à une échelle immense, un certain réveil de ce qu'on appellerait chez nous la société civile face au pouvoir?
Je vais juste revenir une minute sur ce qui s'est dit autour de la réponse de l'État. Enfin, la plupart des commentaires ont souligné la disparition de Xi Jinping et non pas son omniprésence. Donc, en réalité, c'est une réponse qui est assez typique, en fait. C'est-à-dire que souvent, quand il y a une crise, c'est le Premier ministre qui monte en première ligne. Donc, c'est Li Keqiang qui a été en première ligne. Xi Jinping, effectivement, est apparu de temps en temps, mais pas en première ligne. Donc, c'est un modèle qu'on a vu aussi avec, par exemple, les manifestations à Hong Kong, le tremblement de terre du Sichuan en 2008 avec son prédécesseur. Donc, c'est toujours un peu ça.
Et le Premier ministre peut servir de fusible si véritablement l'épidémie reste hors contrôle.
Voilà. Donc la réponse de l'État... Bon, alors, bien sûr, une épidémie a des caractéristiques particulière, donc dans le sens où elle peut potentiellement concerner tout le monde en Chine. Donc tout le monde peut avoir peur. C'est un peu différent d'un tremblement de terre. Néanmoins, il y a des ressemblances assez frappantes avec ce qui s'est passé en 2008. Donc il y a eu donc le tremblement de terre, la catastrophe, et tout de suite après donc un énorme mécontentement dans la société en disant pourquoi est-ce que les bâtiments administratifs ne se sont pas effondrés alors que les écoles primaires, comme le tremblement de terre a eu lieu à 14h30, toutes les écoles primaires se sont effondrées.
Donc, et là, on voit que le régime a insisté sur cette capacité proprement hallucinante de faire surgir deux hôpitaux complet, semble-t-il,
oui,
en
voilà.
10 jours.
Donc on espère enfin, qu'il n'y a pas de tremblement de terre.
Oui, voilà.
Donc il y a eu cette même dynamique où le régime laisse, en fait, enfin le régime a une gestion de l'opinion publique qui est assez fine. C'est pas une gestion complètement, écrasante. Donc il y a toujours un espace pour la société civile pour s'exprimer. Donc je dirais que c'est pas le réveil. Pour revenir à votre question, oui. C'est pas le réveil. C'est un cycle qu'on a vu plusieurs fois. Donc il y a un moment où il y a un espace pour l'opinion publique. Effectivement, c'est canalisé parce qu'il y a des moyens de contrôler les discussions, soit par mots-clés, soit avec des armées de personnes qui enlèvent les messages ou les images qui sont plus difficiles à saisir automatiquement, des réseaux sociaux et de l'Internet. Et donc là, on a eu ce moment, effectivement, où beaucoup de personnes ont pu s'exprimer sur les réseaux sociaux. Effectivement, comme le disait Karine, dans le sens d'une critique des leaders provinciaux. Donc le centre ne peut pas être mis en cause.
Est-ce qu'on sait s'il y a eu des limogeages au niveau...
Central, non. Alors, il y a eu des limogeages au niveau provincial. Aujourd'hui ou hier, on a appris l'envoi d'une équipe de la Commission centrale de discipline et d'inspection dans le Hubei.
Donc la province
de Wuhan. Cette équipe, enfin cette instance est en charge à la fois de la corruption, mais aussi de la rectitude idéologique, de la conformité aux instructions, etc. Donc certainement, il y aura des limogeages symboliques.
Le petit groupe auquel vous faisiez allusion, donc qui doit gérer la crise sous l'autorité du Premier ministre, ce sont surtout des responsables de la propagande ou des responsables de santé publique?
Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est un point très, très intéressant. Donc effectivement, quand il y a eu l'annonce de ce petit groupe dirigeant pour faire face à la crise, on n'a jamais la composition complète de ce type de groupe, mais on a quand même les principaux responsables qui sont mentionnés par leur nom. Et donc, on découvre qu'il y a une seule responsable qui est issue du système de santé, c'est Sun Chunlan. Et les autres membres dirigeants, et en particulier le vice-président de la commission, c'est Wang Huning. Donc c'est le responsable, l'idéologue du régime, l'ancien professeur de sciences politiques, spécialiste de Jean Bodin et des théories françaises de la souveraineté du 15e siècle, mais qui est toujours capable de monter en première ligne quand il faut remettre tout le monde au pas. Donc le souci principal, c'est la gestion de l'opinion publique, ça c'est très clair. Donc il y a un moment pour que la société s'exprime dans certaines limites, et certainement, à partir de, je sais plus exactement, c'était mercredi soir ou jeudi soir, il a commencé à y avoir des effacements massifs de comptes WeChat, en fait. Donc la fermeture massive, et on a demandé aux gens de se réenregistrer avec des conditions très contraignantes. Donc il fallait avoir un mot de passe qui est envoyé à un contact qui le transmet à la personne qui essaye de se réenregistrer.
Oui,
Sur
le plan du calendrier politique, en principe, en mars, il doit y avoir des assemblées au niveau national, des assemblées du parti.
Donc, une partie de l'énorme retard dans la communication, enfin... mutuelle. En réalité, on ne sait pas où exactement ça a coincé, mais quelque part entre le niveau provincial et le niveau central, il y a eu un ordre de blocage de l'information entre fin décembre et le 20 janvier. Et cette période correspond justement au moment où ont eu lieu les assemblées préparatoires provinciales à la sélection des délégués de l'Assemblée nationale. Donc c'est justement cette réunion-là qui a bloqué, semble-t-il, la transmission des mauvaises nouvelles. Donc évidemment, maintenant il y aura l'Assemblée nationale, les deux assemblées, l'ANP, la CPPCC...
qui pourraient être reportées, éventuellement.
Et on parle effectivement d'un report, qui serait, tout de même assez inouï, en tout cas depuis une vingtaine ou 25 ans, on n'a pas vu ça.
Sébastien Jean, je rappelle que vous dirigez le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Demain, 9 février, en principe, les Chinois retournent au travail, puisque les vacances avaient été prolongées à cause du coronavirus. Est-ce que véritablement on s'attend demain à ce que les usines recommencent à travailler ?
C'est très difficile de savoir exactement combien de temps va durer cette crise dans ses effets économiques. Est-ce que les gens vont effectivement pouvoir retourner au travail demain ? Ça dépend de beaucoup de facteurs. Je dirais, même s'ils retournent au travail, un certain nombre d'usines probablement resteront bloquées parce qu'il y a aussi des difficultés d'approvisionnement, et des entraves au transport aussi de marchandises. Bon, et puis surtout, la situation va être assez hétérogène, mais on ne sait pas bien à quel moment ces différentes mesures vont être levées. Donc, ça induit un certain nombre d'impacts économiques, aussi bien sur la production, donc sur l'offre, que sur la demande, parce que la consommation, elle aussi, bien entendu, dans les zones touchées, est extrêmement affectée. C'est pas le moment qu'on va choisir pour faire des dépenses autres que les dépenses contraintes, minimales, alimentation et des dépenses préengagées, disons.
Et donc, en fait, l'incertitude principale porte sur la durée. De la même manière que, et Karine le rappelait, il y a le calendrier de la contamination, il y a aussi le calendrier économique, et avec beaucoup d'annonces de la part de grands groupes, d'avoir déjà fermé et ils n'annoncent pas de rouverture. Je pense notamment aux groupes automobiles, qu'il s'agisse de groupes européens ou coréens comme Hyundai.
En effet, la durée est une dimension clé. Maintenant, il y a beaucoup d'inconnus dans la propagation économique de ce choc parce que il est quand même sans précédent dans son ampleur, dans le fait que ça concerne aussi bien l'offre que la demande. Alors, bien entendu, il y a eu l'épidémie du SRAS en 2003, mais la Chine était beaucoup moins importante dans l'économie mondiale. Il y a eu des perturbations qui ont beaucoup affecté les chaînes de valeur, justement, ces chaînes d'approvisionnement internationales, hein, que ce soit le tremblement de terre au Japon en 2011, les inondations en Thaïlande, la même année, à un endroit où il y avait énormément de sous-traitants de l'industrie électronique japonaise. Ça a perturbé jusqu'à l'autre bout du monde. Il y a des usines au Mexique qui ont dû fermer parce qu'ils n'avaient plus de pièces.
Et là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est ce qui risque de se passer. Quels sont les secteurs les plus impactés ? On pense tout de suite, bien évidemment, à la technologie.
Alors, c'est évidemment les questions qui se posent à une échelle qui est celle de la Chine aujourd'hui. C'est-à-dire, finalement, on disait l'usine du monde, c'est très réducteur, mais enfin, la première puissance industrielle et commerciale au monde, 30% de la production industrielle. Donc, les effets, je dirais, ils sont à la fois du côté de la demande et de l'offre. La demande, c'est ce que les Chinois achètent. Donc, qu'est-ce qu'ils nous achètent ? Bon, des Airbus, ça, a priori, ça va pas être très directement affecté, mais c'est évidemment un marché très important pour beaucoup de secteurs. Je dirais, les plus affectés, à mon sens, ce sont le secteur du luxe et celui de l'industrie agroalimentaire, et puis quand même un certain nombre de secteurs industriels aussi, machines, biens d'investissement notamment. Et puis,
là, vous dites l'impact sur l'économie française ?
Oui, sur la demande adressée à l'économie française. Hein. Et puis j'ajoute le tourisme, bien entendu. Et le tourisme, là, c'est très direct. Hein. C'est-à-dire que les flux de touristes chinois, et on sait que les touristes chinois dépensent énormément, que ça représente quand même, on estime à 4 milliards d'euros par an les dépenses de touristes chinois en France. Donc ça s'arrête instantanément. Ensuite, le deuxième type d'impact, c'est effectivement cet impact sur la production. Est-ce que ça va nous bloquer certaines capacités de production parce qu'il y a des composants qui n'arrivent pas ? Déjà, il y a quelques jours, le constructeur Hyundai coréen a annoncé qu'il fermait provisoirement toutes ses usines en Corée. Et donc, ça veut dire que, évidemment, il y a des usines bloquées en Chine, mais d'ores et déjà, il y en a qui sont bloquées en Corée. Qu'est-ce qui va se passer en Europe ? Au fond, il y a un mois à peu près de délai de livraison, d'acheminement et de livraison, quand c'est par bateau, et quand même l'essentiel du commerce international se fait par voie maritime.
Donc, c'est surtout l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui, de tous les pays européens, est le principal partenaire de
l'Allemagne,
la Chine.
L'Allemagne, c'est le plus concerné par les ventes en Chine, par le côté ce que les Chinois vont acheter en moins, parce qu'ils exportent, c'est le dixième de leurs exportations, c'est quasiment 3% du PIB allemand qui est vendu, que représentent les ventes allemandes en Chine. Nous, notre moindre succès commercial, d'une certaine façon nous protège de ça, on est moins exposé.
Oui, enfin, il n'y a pas de quoi se féliciter pour autant.
Je le dis effectivement en souriant. Maintenant, l'autre aspect, c'est que Allemands comme Français, dans l'industrie, nous utilisons tous beaucoup de pièces, composants, produits semi-finis en provenance de Chine. Et là, ça touche aussi bien les Français que les Allemands. Donc il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels plus du cinquième, des fois plus du quart des pièces, des composantes qu'on utilise dans la production viennent de Chine. Et quels sont ces secteurs? Ben, le plus évident, c'est celui de tout ce qui est électronique, informatique, où là, la Chine est un producteur massif, un fournisseur massif. Il y a également le textile, habillement, chaussures. C'est la Chine est plus qu'elle était là-dedans. C'est pas l'avenir pour la Chine, mais elle reste évidemment un acteur central dans ce domaine. Les machines électriques, un certain nombre de produits métalliques, et ainsi de suite. Donc là, il va y avoir une difficulté. La difficulté, c'est de savoir, bon, est-ce qu'il va y avoir des ruptures d'approvisionnement? S'il y en a, est-ce qu'on va trouver des fournisseurs de substitution? C'est plus ou moins facile selon les secteurs, selon la spécificité des intrants.
Mais donc, c'est quand même un spasme de la mondialisation. C'est-à-dire que tout à coup, on prend conscience de l'interpénétration des économies, et on voit les effets sur les bourses dans le monde. Et puis, il y a tous les pays alentours qui peuvent aussi bénéficier d'un ajustement de ces ruptures de production.
On est face à un choc d'une ampleur sans précédent et à un endroit particulièrement sensible, même en Chine d'ailleurs, c'est un carrefour logistique et c'est un centre industriel. Je crois que cette conscience, elle existe depuis longtemps. Toutes les multinationales savent bien qu'à fur et à mesure qu'elles dispersent leur processus de production dans le monde entier, l'un des grands défis, un des principaux défis auxquels elles ont à faire face, c'est la robustesse, leur capacité à encaisser des chocs, à faire preuve de résilience, souvent, comme on dit dans ce mauvais jargon. Et donc, elles développent différents types de stratégies. Et d'ailleurs, souvent, les multinationales, les grosses multinationales, peuvent mieux s'adapter, ont développé des stratégies beaucoup plus réfléchies, de robustesse par rapport à ce type de choc, que des petites entreprises qui, elles, vont peut-être avoir plus de mal à trouver le bon fournisseur alternatif, disons.
Frédéric Keck, merci d'être avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire d'anthropologie sociale au CNRS. Vous êtes aujourd'hui à Rome. Ce monde qui a le hockey, ou en tout cas qui se bloque par rapport au système chinois, quelle réflexion cela inspire-t-il à l'anthropologue que vous êtes?
Alors, pour quelqu'un qui a été comme moi formé à l'anthropologie des sciences, cela pose une question qu'on débat depuis une trentaine d'années, qui est la question de savoir ce que peut un microbe. C'est-à-dire si les microbes peuvent être considérés comme des acteurs à part entière dans la société. Et là, on voit effectivement un nouveau virus qui apparaît donc très probablement chez des chauves-souris, qui se transmet aux humains par un animal qu'on n'a pas encore identifié.
On parle aussi depuis hier du pangolin, un petit mammifère à écailles, oui, mais qui serait un transmetteur.
La culture chinoise. Et donc ce virus qui se transmet par une chaîne animale a tué donc pour l'instant 600 personnes, mais a cette capacité de bloquer un pays de 1 milliard 500 millions de personnes et de arrêter peut-être toute l'économie mondiale. Donc on a ici un rapport entre le petit et le grand qui est tout à fait impressionnant et qui en fait résulte de la place de la Chine dans la mondialisation.
L'inquiétude qui se manifeste bien évidemment en Occident, sur le plan économique d'abord, sur le plan bien sûr de la santé publique, est-ce que c'est une prise de conscience de la part des Occidentaux de cette dépendance par rapport à la Chine? Avec d'ailleurs une floraison de racisme, et semble-t-il, pas seulement dans les pays occidentaux d'ailleurs.
Il y a effectivement cette prise de conscience de l'interconnexion entre l'économie chinoise et les autres économies mondiales. À l'intérieur de la Chine, entre Wuhan, centre industriel, les autres villes qui sont connectées par des lignes de chemin de fer à haute vitesse depuis 5 ans, qui se sont développées très rapidement. Et puis, il y a aussi une économie multipolaire où on connaît la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais on voit aussi tous les liens entre la France et Wuhan, et on redoute maintenant la propagation de ce virus en Afrique avec des dynamiques aussi très différentes selon qu'on est en Afrique de l'Est où dirigeant actuel de l'OMS est éthiopien et a manifesté des signes de sympathie envers le président chinois, ou en Afrique de l'Ouest où on a eu récemment une réunion à Dakar où l'Institut Pasteur a essayé d'organiser le séquençage et le dépistage du coronavirus dans l'Afrique de l'Ouest.
Revenons un instant sur le rôle et la symbolique propre à cette ville de Wuhan. Karine Milsan y faisait allusion. Il est significatif d'ailleurs que l'information officielle de Pékin parle de pneumonie de Wuhan pour bien essayer de la localiser. Donc il y a une histoire spécifique de cette ville qui a été aussi, ou qui est encore, paradoxalement, une sentinelle sanitaire.
Oui, alors à chaque nouveau virus, il y a beaucoup de discussions pour savoir comment on va appeler l'épidémie qu'il cause. Quand le virus de grippe aviaire était arrivé à Hong Kong, on évitait de le rattacher à Hong Kong. Même chose pour le SRAS, dont l'acronyme rappelle quand même le statut de zone économique spéciale de Hong Kong. Donc là, le pouvoir chinois et l'OMS ont bien voulu effectivement rattacher ce nouveau coronavirus à la ville de Wuhan, parce que ça fait depuis 2003 qu'on attend qu'un nouveau virus apparaisse sur les chauves-souris dans cette région de la Chine, et c'est la raison pour laquelle le pouvoir chinois, en lien avec les autorités françaises, a construit un laboratoire de haute sécurité numéro 4 dans la ville de Wuhan, qui permettait justement d'anticiper l'émergence de ces nouveaux virus, donc de faire de Wuhan une sentinelle.
Mais pardon, je vous interromps Frédéric, mais ce laboratoire P4, comme on l'appelle, nourrit aussi, alors sur les réseaux sociaux, des délires complotistes inimaginables.
Oui, il y a beaucoup de fake news qui circulent sur ce nouveau coronavirus qui aurait été fabriqué. On ne voit pas comment les Chinois auraient pu vouloir fabriquer un virus pour bloquer leur économie. On peut suspecter peut-être les Américains, mais il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de fabriquer un virus et de le diffuser dans une population que de laisser la nature fonctionner selon des mécanismes aléatoires pour produire des nouveaux virus. Je voulais simplement signaler que le décès du jeune médecin Li Wenliang, qui a donc traité des patients à Wuhan, est sans doute un tournant dans la crise, parce que justement pendant un mois, le pouvoir chinois a voulu faire croire que Wuhan pouvait être une sentinelle, qu'elle était équipée pour dépister, séquencer un virus et ainsi lancer des mesures adaptées comme la quarantaine. Mais on découvre aujourd'hui effectivement que des médecins ont été empêchés de diffuser l'information. Aujourd'hui, on apprend qu'un jeune médecin en a mort. Alors, le fait qu'il soit jeune et qu'il soit un médecin est important parce que, du coup, la société civile s'identifie à lui. On apprend aussi que les victimes ne sont pas seulement des personnes âgées qui ont des phénomènes de comorbidité, comme on l'avait vu sur les premiers cas. Mais par ailleurs, je crois que ce jeune médecin a un rôle de lanceur d'alerte qui est tout à fait important, puisque on peut le contraster avec l'autre grand héros de la crise actuelle, qui est Zhong Nanshan, qui était le héros du SRAS, qui avait joué ce rôle de lanceur d'alerte au moment du SRAS à Canton. Aujourd'hui, Zhong Nanshan joue plutôt le rôle de sentinelle qui alerte à l'avance l'opinion publique, qui essaie de calculer le devenir de l'épidémie, mais qui n'est pas véritablement menacé par cette épidémie. Là, on a un lanceur d'alerte qui s'est quasiment sacrifié pour donner l'information. C'est assez similaire au rôle d'un autre personnage au cours de la crise du SRAS, qui était un médecin à l'hôpital militaire de Pékin, qui avait donné l'information sur le nombre de patients à Pékin qui étaient alors cachés par le pouvoir chinois. Il avait donné cette information à un journaliste de Time Asia qui travaillait à Hong Kong, Carl Taro Greenfeld, et qui avait ainsi informé sur le devenir de l'épidémie et transformé le cours de la crise sanitaire. Donc on est sans doute à un moment de basculement dans cette crise.
Merci beaucoup d'avoir été par téléphone avec nous depuis Rome. Partons maintenant pour Hong Kong, vous rejoindre, Jean-Pierre Cabestan. Merci mille fois de nous apporter votre témoignage. Donc Hong Kong, où il y a, si j'ai bien compris, un mort du virus, une panique, semble-t-il, au niveau de la population, avec une ruée pour essayer de trouver du papier toilette, et le corps médical qui s'est mis en grève pour exiger la rupture de toutes les voies d'accès venant de Chine.
À Hong Kong, c'était la panique hier. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Effectivement, les magasins, les grandes surfaces étaient pris d'assaut par des Hongkongais très inquiets de faire face à une rupture de stock de denrées les plus élémentaires, y compris les sacs de riz. Et cette panique était véritablement un peu exagérée parce que Hong Kong, d'abord, ne dépend pas complètement pour son alimentation de la Chine, mais aussi de l'Australie et d'autres pays de la région, mais aussi parce que les approvisionnements en provenance de Chine continentale n'ont pas cessé et ne vont pas cesser. Donc, quand on parle de fermeture de la frontière, il faut prendre ça avec une certaine précaution parce que toutes les livraisons en provenance de Chine continentale vont se poursuivre.
Et il y a 90%
des problèmes.
90% de transfrontaliers, donc c'est quand même un système particulièrement poreux. Mais le corps médical est toujours en grève.
Une partie du corps médical reste en grève. Je ne sais pas encore pour combien de temps, parce que cette grève n'est qu'en partie suivie. Elle est évidemment critiquée par le gouvernement de Hong Kong. Maintenant, les gens restent inquiets parce que une des principales sources de l'inquiétude, c'est qu'on ne connaît pas, on ne connaît toujours pas l'origine du virus. Et ensuite, parce que beaucoup de familles hongkongaises ont des membres de leur famille en Chine continentale, notamment en Guangdong, et sont en relation quotidienne avec eux par les réseaux sociaux, par le téléphone et autres moyens de communication. Et donc, ils proviennent de Chine continentale quand même des nouvelles plutôt alarmantes qui ajoutent à l'inquiétude de la société hongkongaise.
Hong Kong, traditionnellement, jouait ce rôle de sentinelle sanitaire que Wuhan devait assumer à son tour, mais après 10 mois de contestation que l'on a suivi évidemment de près ici en Europe, jusqu'à quel point est-ce que cette crise d'un autre genre complique davantage encore les relations entre Pékin et Hong Kong?
Évidemment, cette crise sanitaire s'ajoute à une crise beaucoup plus politique qui s'est développée au cours de l'automne dernier. Et donc, si vous voulez, il y a un niveau de défiance à l'égard des autorités locales et des autorités chinoises qui, évidemment, est sans précédent à Hong Kong. Il y a même une forme de racisme anticontinental par toutes les personnes qui sont d'origine continentale ou qui parlent mandarin. Sont mal vus et surtout les personnes s'en éloignent afin d'éviter de se trouver en prise peut-être avec le virus, le coronavirus qui sévit en Chine. Donc vous avez des comportements qui sont évidemment qui s'expliquent par cette tension politique de l'automne dernier. Maintenant, on est dans une autre forme de crise et la contestation politique elle-même a pris ça a revêtu une autre forme dans le sens où c'est une forme de protectionnisme plus prononcée par rapport à la Chine qui se manifeste, notamment parmi les partis d'opposition, mais aussi parmi les partis pro-Pékin qui ne veulent pas être en perte de vitesse par rapport à l'opinion publique de Hong Kong.
Jean-Pierre Cabestan,
locales en septembre.
Élections locales en septembre, dites-vous. Comment analysez-vous de Hong Kong la situation à Taïwan, puisque l'on sait que l'île est elle aussi sérieusement touchée par le virus. On sait que Pékin refuse obstinément que Taïwan soit admise à l'OMS, donc il n'y a pas de communication, semble-t-il, il n'y a pas de partage des informations. Qu'est-ce que l'on sait de la situation à Taïwan?
La situation à Taïwan, elle est relativement bonne par rapport au continent, puisque le nombre de cas est inférieur à celui de Hong Kong. À Hong Kong, vous avez 25 cas, à Taïwan, il y en a moins d'une vingtaine, et pas de décès pour l'instant. À Hong Kong, nous avons eu un décès, donc c'est ça qui a provoqué l'émotion qui s'est manifestée hier. Maintenant, à Taïwan, effectivement, la situation est difficile en termes de communication avec l'OMS du fait du veto imposé par la Chine à cette communication. La Chine prétend représenter Taïwan à l'OMS, une organisation internationale qui dépend de l'ONU, et donc refuse surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen toute représentation, même en tant qu'observateur de Taïwan dans les organes de l'OMS. Et donc ça facilite pas la gestion de la crise à Taïwan, qui est obligée de s'appuyer sur ses amis, notamment les Américains et d'autres pays amis comme le Japon, pour obtenir les informations en provenance de l'OMS.
Jean-Pierre Cabestan, merci mille fois pour cet éclairage de Hong Kong. J'espère que vous portez vous-même votre masque après nous avoir parlé.
Moi, je suis pas malade, je mets pas mon masque, mais c'est vrai que dans les public, tout le monde porte un masque et qu'on est contrôlé deux fois à mon université, à l'entrée de l'université, on contrôle de température avant de pouvoir entrer dans les locaux universitaires, et donc des locaux qui sont extrêmement vides parce que tous les étudiants sont priés de rester chez eux, et pour les étudiants qui sont d'origine continentale, ils sont invités à rester sur le continent jusqu'à nouvel ordre.
Bien, eh bien, nous vous recommandons tous d'être prudents. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Jean-Pierre Cabestan.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Karine Milson, je rappelle que vous êtes économiste et chercheuse au CNRS, spécialiste des systèmes de santé. Le système de santé chinois a été mis en place après l'épidémie du SRAS, donc ça c'était en 2003. Est-ce que il est aujourd'hui capable de résorber ou d'enrayer une telle épidémie, ou est-ce qu'il y a véritablement un décalage entre les grandes villes, les grands hôpitaux, et puis ce qu'on ne sait rien en fait des profondeurs du pays?
En fait, le système de santé chinois, il est très décentralisé. Il doit sa structure actuelle de façon antérieure au SRAS, de sa structure actuelle en fait à Mao Zedong, qui a vraiment mis en place des médecins très peu formés, mais qui savaient faire des premiers soins dans les zones rurales. Et il était
des zones où la médecine traditionnelle reste extraordinairement présente.
Oui.
Et y compris dans le cas actuel du coronavirus.
C'est culturel. La médecine chinoise est culturelle. C'est vraiment une partie de la culture. Donc c'est autre chose. Mais en revanche, la manière de le système de santé tel qu'on l'entend ici, c'est-à-dire sans la médecine occidentale, si vous préférez. Eh bien, la manière de le gérer, c'est une manière très décentralisée qui est du petit village jusqu'à la zone urbaine. Et en fait, ça ressemble un peu à chez nous, c'est-à-dire que plus on monte en densité et plus on va avoir une infrastructure excessivement bien équipée. La chose est qu'effectivement, avec les réformes économiques, ce système s'est complètement effrité puis détruit et il s'est surtout beaucoup privatisé. Donc, au moment du SRAS, effectivement, il y avait une très large partie de la population qui était exclue pour des raisons financières de ce système de santé. Et après le SRAS, il a été mis en place un certain nombre d'assurances santé publique pour trois, majoritairement pour les urbains, pour les ruraux, pour les migrants. Et puis, avec un accès universel aux soins. Seulement, le fait est que, je répète, c'est un système très décentralisé dont le package de soins va dépendre de l'endroit où l'on se trouve.
Et du niveau de richesse.
Et du niveau de richesse de la zone.
Et du niveau de corruption.
Et du niveau de corruption de la zone, effectivement. Puisque
On voit qu'il y a un manque absolu maintenant de masques, de gants. On a appris d'ailleurs hier que Foxconn, qui fabrique, donc c'est le géant taïwanais d'électronique, qui a décidé de commencer à fabriquer des masques chirurgicaux aux côtés des produits Apple. Mm-hmm. Donc on voit à quel point, et ça, c'est ce que Sébastien Jean nous expliquait d'ailleurs, cette relative élasticité de ces énormes groupes à s'adapter aux circonstances. Néanmoins, on voit aussi que dans le système en Chine continentale, il y a cette capacité de dissimulation, ce qui a expliqué aussi que l'Organisation mondiale de la santé a mis quelques jours de retard à décréter l'urgence. Il y avait d'ailleurs cette photo que j'ai trouvée très embarrassante, où on voit le directeur général de l'OMS qui fait pratiquement la révérence face à Xi Jinping.
Alors, je vais juste revenir en fait sur ce système de santé chinois qui n'offre pas une assurance, enfin, il n'offre pas un accès aux soins à l'ensemble de la population, pour mettre ça en parallèle avec Hong Kong et ce qui vient d'être dit tout à l'heure. C'est important de comprendre qu'à Hong Kong, le système de santé n'est pas du tout le même. C'est un système de santé tel que quand vous avez un problème et que vous vous rendez dans un hôpital, là, vous avez une totale gratuité des soins. Ce n'est pas du tout le cas en médecine de ville, mais à l'hôpital, vous avez une totale gratuité. D'où, en fait, cette peur d'être envahi dans les hôpitaux, puisque du côté continental, ce n'est pas du tout le cas. Malgré la présence de ces assurances et cet accès universel, vous avez un reste à charge qui est excessivement important. Donc forcément...
D'où l'importance aussi de la corruption.
Parce
et
que
il semble que la
demandent...
Croix-Rouge chinoise est particulièrement attaquée sur les réseaux sociaux, le niveau de corruption au sein de la Croix-Rouge chinoise.
Vous avez une masse de population qui cherche la qualité. Comme je vous l'ai expliqué, la qualité, vous allez avoir que dans les gros hôpitaux, un médecin, sa formation, le mot médecin ne veut rien dire, puisque vous avez derrière le mot médecin des niveaux de formation excessivement différents. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a qu'un an de formation, et dans les gros hôpitaux qui ressemblent à nos CHR, vous allez avoir des médecins formés comme en Occident. Et de ce fait, les gens veulent se rendre là où il y a la qualité, surtout en cas de panique, donc ils veulent légitimement, ce que je ferais aussi, se rendre dans ces gros hôpitaux. Donc forcément, vous avez un afflux de personnes et il y a une histoire de la corruption qui font que il est accepté ou en tous les cas dans les mœurs de donner un dessous de table au personnel soignant et aux médecins qui sont également intéressés au profit de l'hôpital. Et donc de ce fait, dans un cas d'épidémie comme celui-là, les choses sont beaucoup plus tendues.
Sébastien Jean, on sait que Pékin a demandé officiellement l'aide de l'Union européenne, pas des États-Unis, mais il y a eu ce coup de téléphone du président chinois à Donald Trump vendredi, donc hier, pour le rassurer, pour dire tout va bien se passer, nous sommes en mesure de contenir le problème, et Donald Trump a dit, mais bien sûr, je vous crois. Néanmoins, cette crise parvient à un moment particulièrement délicat des relations commercial entre Pékin et Washington depuis les accords péniblement conclus à la mi-janvier.
Oui, c'est vrai que cette crise provoque de nouveau des tensions, au moins des échanges un peu acrimonieux, à un moment où on espérait que l'accord du 15 janvier dernier avait apaisé les relations. On le voit au fait qu'effectivement, la Chine s'est bien gardée de demander de l'aide aux États-Unis, même par exemple sur la pénurie de masques, ils ont adressé des demandes à l'Union européenne, mais pas aux États-Unis. Tout ouais, sauf
montrer dire que les États-Unis avaient dit tout de suite, on ferme les frontières, plus personne n'entre.
Voilà, c'est le deuxième élément. Il y a eu des mesures très drastiques de contrôle des voyageurs en provenance de Chine aux États-Unis, peut-être sans doute un peu disproportionnées. Il y a eu des propos assez déplacés du secrétaire au commerce Wilbur Ross et de Mike Pompeo, le directeur le secrétaire d'État. Qui, dans le même temps, la main sur le cœur, disait, on compatit avec nos amis chinois, et juste après, avait des remarques pour dire finalement si ça a aidé les entreprises à prendre les bonnes décisions pour se relocaliser aux États-Unis, ça serait bien. Donc c'était évidemment...
C'était très, pas très délicat.
Pas très délicat, voilà. Donc ça ne fait que confirmer la tension entre les deux pays et éroder un peu plus le potentiel de confiance dont on espérait que l'accord allait permettre de le renouer, disons.
D'autant que la Chine s'était engagée, d'après ces accords, à acheter davantage pour 200 milliards
de dollars. 200 milliards sur deux ans, donc effectivement...
Et notamment le soja, qui est très important pour Donald Trump au niveau des élections présidentielles.
Absolument. Et ça pose la question d'ores et déjà de savoir si l'épidémie sera une raison pour modifier la cible. Bon, pour l'instant, il est trop tôt pour le dire, mais voilà, il y a d'autres questions aussi qui se posent. C'est qu'il y a des technologies, notamment des molécules développées aux États-Unis, notamment par une entreprise californienne qui s'appelle Gilead, qui est très prometteuse pour les Chinois. Donc là, on voit que les Chinois sont très précautionneux dans la façon dont ils vont essayer de mobiliser cette nouvelle molécule en faisant une demande de brevet et non pas une émission de licence obligatoire, qui est une façon de dire il y a urgence, donc on court-circuite les circuits habituels. Donc là, on voit qu'il y a une grande prudence et donc voilà, ils savent qu'ils marchent sur des œufs dans cette relation et ça facilite pas une gestion coordonnée, concertée de cet événement dramatique entre des pays qui devraient quand même rester des partenaires, c'est ce qu'on pourrait espérer.
Sur le plan intérieur, il y a aussi une gestion très difficile de l'endettement des banques chinoises. On a vu qu'il y a des mesures de soutien pour les PME, on a vu qu'il y a une injection de liquidité de la part de la Banque centrale, mais enfin, il y a quand même un problème
Absolument.
Économique massif.
Pour l'instant, on ne sait pas donc combien de temps ce choc va durer, mais je crois que la grande inconnue, elle est liée à la durée, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi au contexte dans lequel elle se situe, c'est-à-dire une économie en ralentissement, dans lequel les autorités déjà essayaient d'utiliser tous les leviers possibles pour maintenir une croissance au niveau de ce qu'ils avaient ciblé, donc ça, on sait déjà que ça ne sera plus le cas, et aussi une économie extraordinairement endettée. Et donc là, vraiment, la question qui se pose, c'est est-ce que tout d'un coup, cet assèchement de l'activité dans un certain nombre de zones, pas partout quand même, il ne faut pas caricaturer les choses, mais est-ce que ça ne va pas pousser un certain nombre de compagnies à la faillite? Donc, il y a une conscience aiguë de ce problème. Les autorités ont déjà annoncé une flopée de mesures. Donc, vous l'avez dit, ils ont injecté près de 80 milliards sur le marché interbancaire de liquidités. Ils ont donné des consignes aux banques pour dire vous renouvelez les prêts en cours, hein, même si les entreprises ne peuvent pas payer. Bon, voilà. Essayez d'éviter qu'il y ait une rupture de liquidité et qu'il soit impossible à gérer pour une série d'entreprises. On se doute que les entreprises les plus solides, les plus grosses, pourront gérer ça. Maintenant, les petites entreprises, alors dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, par exemple, évidemment, dans le transport aérien, dans beaucoup d'autres. Donc, pour des entreprises qui sont déjà en mauvaise santé financière, et on voit qu'il y en a beaucoup, c'est un problème. Et deuxième temps, ricochet pour des banques qui sont fragiles, et on sait aussi qu'il y en a eu beaucoup, il y a eu des faillites bancaires, enfin, ou des sauvetages in extremis récemment. Là aussi, c'est une vraie question. Donc, il y a une volonté des autorités de contenir ça, d'agir de façon très proactive, très forte pour maintenir la stabilité financière, mais c'est évidemment une préoccupation.
Et pour les marchés financiers mondiaux, à commencer par les marchés de matières premières, qui subissent de plein fouet, pour certains, enfin, le soja, on en parlait, mais aussi le pétrole, le cuivre, enfin, etc. Et les marchés financiers, on voit à quel point les bourses, un peu partout, les places financières, évidemment.
Donc, absolument, parce que.
Frémissent
sur les
matières
financières, la Chine est le premier acheteur sur la plupart des grandes matières premières. Comme l'offre est assez peu réactive, quand il y a une chute très forte et très soudaine de la demande, comme ça, évidemment, ça ne peut qu'avoir un effet massif sur les cours. Là, par exemple, même, je voyais que des navires des cargos de cuivre au Chili étaient arrêtés au départ. On leur demandait de ne pas partir vers la Chine parce que, de toute façon, le port était bloqué à l'arrivée, ils ne pourraient pas recevoir. Donc il y a un effet assez direct. Et puis les bourses, on a observé déjà dans le passé, ça ne fait que se renforcer, le fait qu'on avait l'habitude avant que les bonnes ou mauvaises nouvelles partent de New York et se répondent, ou de l'Europe éventuellement et se répondent dans le monde. Et là maintenant, la Chine est aussi une source de choc très importante. Il y a des répercussions très importantes. On l'avait notamment observé très bien en 2015, quand il y avait eu des chocs sur le taux de change, un changement de la modalité de fixation du taux de change. Puis après, un peu plus tard, les marchés boursiers, on avait vu que les répercussions étaient fortes. Et là, de fait, les conséquences sur les marchés boursiers sont assez importantes. Maintenant, une partie de ces conséquences, c'est l'anticipation des impacts possibles. Donc, ça ne veut pas dire que ça va rebondir de façon infinie. Il y a aussi, dès qu'il y a des nouvelles qui permettent de se dire, ah, peut-être on est arrivé à un moment où l'impact se modère, après, il y a des effets de rebond. Voilà. Donc, il ne faut pas négliger non plus la capacité d'adaptation et l'effet de rebond sur les bourses ou dans l'activité en Chine, d'ailleurs, y compris.
Sébastien Weg, en attendant ces capacités de rebond sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur, on sait à quel point Xi Jinping a développé la puissance économique de son pays pour projeter la puissance tout court à l'échelle du monde, les routes de la soie, l'implantation chinoise en Afrique. Jusqu'à quel point est-ce que ce récit-là, le récit de la Chine à nouveau dominant le monde, est-il atteint ou affaibli?
Oui, c'est une question effectivement intéressante et qui me rappelle, alors moi je suis pas du tout spécialiste des questions de santé ou de système de santé, mais je lisais un compte-rendu d'un livre très intéressant de Catherine Watson, donc publié en 2016 sur la réponse à la fois au SRAS et à la grippe H1N1, et donc expliquant, alors sous le contrôle de Karine, mais expliquant que la réponse extrêmement scientiste du système chinois qui ne fait pas attention en réalité C'est vraiment une question de gestion macro des épidémies qui n'est pas du tout la réponse ne s'intéresse pas du tout aux individus et qui est largement conditionnée par la volonté de donner l'image d'un pays moderne, efficace, etc. Et donc Catherine Watson explique qu'après la grippe H1N1, la Chine était toute fière de son nouveau système de mise en quarantaine extrêmement sévère des malades, etc. Et alors ils se sont retrouvés face à un mur international disant que les mesures étaient attentatoires aux droits de l'homme. Et donc là, aujourd'hui, on se retrouve exactement dans cette situation où la volonté de donner cette image extrêmement moderne et scientifique vers l'extérieur
se heurte. Oui, et puis le côté rouleau compresseur.
Voilà, exactement. Et donc, alors cet hôpital construit en 6 jours... bien sûr, très difficile de faire la part des rumeurs et de la réalité, mais en tout cas, il y a des informations qui circulent sur les réseaux sociaux expliquant que les préfabriqués étaient destinés à construire des prisons, peut-être au Xinjiang, qu'une fois qu'on est entré dans une chambre, on peut plus en sortir. Enfin, cette espèce de culte de l'efficacité et de la réponse scientifique induit en réalité beaucoup de problèmes. Le fait de décréter ces quarantaines massives et d'isoler complètement les villes induit des comportements de panique qui en réalité ne font que renforcer la diffusion de la maladie. Donc on voit bien que cette obsession de la modernité, de l'image et on l'a vu à titre plus anecdotique aussi avec les évacuations de ressortissants où la Chine a voulu garder un contrôle extrêmement tatillon sur qui était dans les avions.
Des avions britanniques qui ont été bloqués parce que les époux
alors,
chinois...
Les conjoints ou conjointes chinois de nationalité chinoise des ressortissants britanniques n'avaient pas le droit de monter dans les avions, donc même chose avec les Taïwanais. Alors ils ont refusé de traiter avec la commission compétente à Taïwan, ça a dû passer par des groupes privés pour affréter un avion. Donc cette priorité placée sur l'image internationale a certainement des conséquences en termes de gestion intérieure, et ça c'est quand même aussi quelque chose qui a dans l'histoire de Chine a toujours mécontenté la population, le fait que les gouvernements chinois depuis très longtemps se sont souvent préoccupés de l'image externe plutôt que du bien-être de la société interne. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qui peut quand même contribuer à renforcer la société civile qui a été mise sous grande pression ces dernières années.
Mais là, on ne parle plus d'un gouvernement chinois, on parle d'un président chinois qui est au pouvoir depuis plus de 7 ans maintenant, dont la pensée, dont la vision sont désormais inscrites dans la Constitution. Donc Xi Jinping concentre autant de pouvoir que Mao, simplement, comme vous le dites, à l'heure contemporaine, avec les moyens, la technologie et la projection de puissance contemporaine. Donc jusqu'à quel point est-ce que la nature même de ce régime extraordinairement personnalisé est, sinon affaiblie, mais en tout cas atteinte par le coronavirus?
Ça, c'est sûr que ça peut être... il y a beaucoup de collègues chinois qui voient une sorte de tournant dans ce moment. Moi, je resterai quand même prudent. Je pense que on a souvent cru au tournant. C'est vrai qu'il y a quelque chose, là, dans la gestion de l'épidémie qui remet peut-être en cause plus fondamentalement le fonctionnement du régime, le fait que personne n'ose dire la vérité au chef. Donc ça, c'est un problème.
Ça, c'est pas nouveau.
Voilà. C'est pas nouveau. Mais là, les conséquences sont vraiment très très dévastatrices. Donc ça peut effectivement créer plus de mécontentement que par le passé. Mais on en a eu d'autres exemples. Quand je repense par exemple au scandale du lait pour bébé contaminé, donc ça avait aussi eu un retentissement énorme. Tout ça.
Ça c'était quoi, il y a une dizaine d'années?
C'était en 2008, l'année des Jeux Olympiques. Donc donc est-ce que c'est vraiment le point Tchernobyl? Ça me paraît en tout cas un petit peu tôt pour le dire. Si le régime arrive, donc là, la stratégie, encore une fois sous le contrôle de Karine, mais la stratégie semble être de contenir le pire de l'épidémie dans le Hubei et de s'assurer qu'à l'extérieur, les choses peuvent reprendre leur cours à peu près. Donc si cette stratégie l'a réussi, je pense que l'opinion publique finira par revenir à la raison et à ne pas trop critiquer le régime, avec l'aide bien sûr de ce que vous avez rappelé, toute l'intelligence, tous les mécanismes techniques qui permettent de contrôler l'opinion publique, d'effacer les messages, les tweets, les sites internet discordants, etc.
Karine Milsand, vous disiez à juste titre tout au long de cette émission que la culture chinoise est une culture de signes. on a l'impression que Xi Jinping lui-même est pris dans un cycle très négatif pour lui. 10 mois de contestation à Hong Kong, les relations difficiles avec Washington, le ralentissement économique, Taïwan, la victoire éclatante de la présidente de Taïwan qui a été réélue sur une position très ferme vis-à-vis de Pékin, et maintenant le coronavirus. Jusqu'à quel point est-ce que l'interprétation de ces crises participe d'une analyse nécessaire de l'évolution du pouvoir en Chine?
En fait, je pense que c'est assez intéressant parce que aujourd'hui, il est un peu à un tournant. C'est-à-dire que la manière dont la crise va perdurer ou au contraire, il va réussir à réduire, enfin la Chine réussir à réduire, fera de Xi Jinping soit un héros, soit quelqu'un pour lequel on sera autorisé à critiquer, sachant qu'il a un pouvoir très très fort et qu'il a montré sa puissance et qu'il a montré qu'il n'hésitait pas à agir.
Mais il a cassé, avec faisant de la lutte anticorruption l'axe majeur de son règne, il a cassé énormément de réseaux traditionnels aussi dans la société chinoise, cette société qui est mise à mal maintenant par cette épidémie.
L'a-t-il cassé ou les a-t-il mis en sommeil? C'est une vraie question. Je pense qu'en fait, les gens, en Chine, on a l'habitude d'être capable de sentir quand il y a un danger et de ne plus forcément exprimer toutes les réticences que l'on peut avoir et quelque part mettre les choses en sommeil. Je voulais revenir sur ce que vous dites tout à l'heure sur l'OMS et sur Xi Jinping.
Oui, en guise de conclusion, parce qu'on arrive à la fin de cette conversation.
Sur l'image internationale, en fait, c'est un bon exemple. Dans les hôpitaux chinois, on n'est pas capable de prendre en charge l'ensemble de ces patients parce que justement, ce sont des hôpitaux qui sont privés. Et plutôt que de repenser à comment on peut gérer les hôpitaux chinois, c'est ce que disait Sébastien, on préfère créer des hôpitaux de substitution, des endroits où on va mettre l'ensemble de cette population. Et c'est, à mon avis, une belle image de comment est-ce que le pouvoir gère l'intérieur et l'extérieur.
Et donc la capacité de ce pouvoir d'ajuster même dans une méthode extrêmement mécanique, sinon scientifique.
Il n'y a pas beaucoup de pragmatisme. Je sais pas si c'est pragmatique, mais utiliser la peur internationale pour faire accepter des choses qui sont assez extrêmes, même si en fait, à y regarder de plus près, c'est pas forcément la meilleure solution pour l'ensemble de sa population.
Bien, eh bien, nous allons tous continuer à suivre, bien sûr, avec compassion et inquiétude, cette immense crise en Chine. Merci à vous tous, merci à vous, Karine Milsan. Vous avez écrit un livre en anglais, Healthcare Reform in China, aux éditions Palgrave Macmillan en 2018. Merci à vous, Sébastien Weg, auteur de Minjian, l'essor des intellectuels non institutionnalisés en Chine depuis 89. Qui est aussi en anglais. Sébastien Jean, en français, le site du Centre d'études prospectives et d'information internationale. Merci aussi à Frédéric Keck, qui a écrit Les Sentinelles des pandémies aux éditions Zones Sensibles cette année. Merci bien sûr aussi à Jean-Pierre Cabestan, directeur de recherche au CNRS, qui était avec nous par téléphone depuis Hong Kong. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud. À la technique, Jean-Guilain Meige. Hugo Boursier m'a aidé à préparer cette émission. Et maintenant, comme chaque samedi, vous avez rendez-vous avec Hervé Gardette. Très bon week-end, à samedi prochain.